En avons-nous Pessah? Le mot Pessah, on va y revenir, mais quand on l'entend, quand on le dit, on a l'habitude d'entendre dans Pessah, en fait, une décomposition en Pessah, en la voix, la bouche parle. Effectivement, c'est très important de voir, de comprendre que à Pessah, la bouche est à l'œuvre. Ça va parler. Une des choses que caractérise Pessah, c'est même la seule chose qui caractérise Pessah dans la durée, ce sont les matzot. Et le premier soir, c'est le soir où, de la fête de Pessah, où nous avons l'obligation de manger un peu de matzot, un peu de matzah. Par la suite, c'est en général une mitzvah quand on en mange, mais on n'a pas d'obligation de manger des matzot les autres jours de la fête. La matzah qu'on mange le soir de Pessah, quand on la présente, elle est présentée comme étant lechem oni. C'est un lechem pauvre. Il est pauvre parce que il n'y a pas, bon, pas de chametz, si on peut parler comme ça, mais il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de. Il n'y a rien. Il n'y a que de la farine et de l'eau. Mais les Chachamim ont interprété comme si c'était une espèce de jeu de mots, mais pas seulement cela. Lechem Oni, c'est un pain sur lequel Onim Dvarim Arbe. C'est un pain sur lequel on va répondre, on va dire beaucoup de choses. Et ce qui va être fondamental le soir du Seder, c'est justement ce qu'on va dire. En particulier, on va le dire sur le pain. Dire sur le pain de la soirée. Parce que, pour le dire déjà tout de suite, au début de la soirée, quand on présente le pain, la matzah, donc sur le plateau avec tous les minagim qui vont autour. Mais on présente ce pain et on dit que ce pain, c'est le pain que nos ancêtres ont mangé, c'est le pain des esclaves. C'était un pain que les Égyptiens donnaient à manger à leurs esclaves. C'est un pain qui tient pas. C'est un pain qui, on se sent pas vraiment exister quand on mange ce pain. Et ce pain est sur la table et on avance dans la soirée et tout à coup on parle de ce pain et ce pain devient le pain de la liberté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce pain qui était le pain de l'esclavage, il est devenu pain de la liberté. Qu'est-ce qu'il y a eu entre-temps? Il y a eu que on a raconté la Haggadah. On a dit la Haggadah. Donc on a parlé. Et vous voyez ce qui s'est passé, ce qui a transformé le pain d'esclavage et qui a pris ce même pain qui maintenant devient pain de la liberté, c'est que durant la soirée, le pain en question, il a été bombardé par nos paroles. Et c'est ce bombardement qui a transformé le pain en un pain de liberté. Il n'y a rien de changé, c'est toujours la même matzah. Et ce qui est fondamental, c'est justement cette idée que la Torah, elle va nous apprendre, pas seulement ici, mais dans d'autres circonstances aussi, nous apprendre que Les choses dépendent de la façon dont nous les prenons, dans la façon dont nous les travaillons en quelque sorte. Comme si en quelque sorte les choses n'existaient que par rapport à l'observateur, par rapport à celui qui regarde la chose. C'est presque de la physique, où on pense que les choses n'existent pas comme telles. En physique quantique, par exemple, on ne peut rien dire sur quelque chose si on ne dit pas de quelle manière on appréhende la chose. Bon, si on veut dire que tel est tel objet, tel est ici qu'il y a une certaine tension ou un certain courant qui passe, il faut dire avec quel instrument on le mesure. Et selon l'instrument, donc on donne une information sur le couple, l'objet et ce qu'il permet de le mesurer. Donc l'observateur. Donc l'observation change la chose. Comme si les choses en elles-mêmes, disons en tout cas c'est comme ça en physique, on ne peut rien en dire pour elles-mêmes. On peut seulement dire ce qui se passe quand on l'observe, de la relation de la chose. Ici, ce pain-là, la façon dont on l'observe, la façon, le discours qu'on va tenir sur ce pain va changer le pain. D'autres termes, la matzah, elle ne veut rien dire par elle-même. Ce qu'elle va dire, eh bien, c'est nous qui allons dire ce que cette matzah veut dire. Et c'est aussi tout le sens de ce qu'on va dire sur Pessah al-Shumma et Maror al-Shumma, etc. On reviendra là-dessus. Bon, tout dépend de la façon dont on en parle. Donc, parler, même si au départ, Pessah, ça ressemble à un jeu de mots, et malgré tout, c'est une grande vérité, parce que c'est absolument fondamental. Alors, on a à Pessah une mitzvah de manger de la matzah et un interdit de manger du chametz. Alors, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'il y a? Certains veulent dire que le chametz, il représente le Yetzer Hara. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mal dans le chametz? Fait, il n'y a rien de mal dans le chametz. Absolument rien. Simplement, la plupart des choses que nous mangeons, la nourriture principale que nous mangeons, c'est le pain. Et le pain, c'est du chametz. Le pain, si on ne prend pas la peine de l'empêcher de devenir chametz, il devient chametz. Il est chametz. Et toute l'année, on mange du chametz. Si c'était mauvais, on ne mangerait pas toute l'année du chametz. C'est juste que pendant une semaine, la Torah nous a dit, tu ne manges pas de chametz. Tu ne manges pas la nourriture telle quelle, la nourriture standard. Et comme vous savez, Pessah, ça a lieu, la date de Pessah, c'est le 15 Nissan. Sukkot, c'est le 15 Tishri. Il y a ce qu'on appelle une Gzera Shava, c'est-à-dire que on apprend quelque chose sur Soukhot qu'on apprend de Pessah. On apprend, par exemple, qu'à Soukhot, le premier soir, quand on mange dans la souka, on a à manger un kézaït, une certaine quantité de pain dans la souka. Sur le modèle de la quantité de matzah qu'on mange à Pessah. Alors, si vous voulez le rapport Matzah Hametz, il faut l'entendre comme du même ordre que le rapport entre la Souka et la maison. La matzah, c'est un pain qui n'a pas abouti. La souka, c'est moins bien qu'une maison quand il pleut. Pas terrible. Donc, on parle ici de la nourriture standard à Pessah et de la façon d'habiter standard à Sukkot. Et la Torah, elle nous a donné une semaine pour manger du mauvais pain, si on peut parler comme ça, de même qu'elle nous a ordonné d'habiter une semaine dans une mauvaise maison. Pardon? Il n'y a personne dans la salle d'attente. Il n'y a personne dans la salle d'attente. Donc, il y a une parenté, deux choses fondamentales dans la vie ordinaire, c'est-à-dire dans la nourriture et dans l'habitat, où la Torah, en fait, veut nous enseigner comment on doit se comporter, comment est-ce qu'il faut regarder, comment est-ce qu'on fait. Je passe avec ça. Voilà. Comment est-ce qu'on doit regarder la nourriture? Comment bien l'apprécier? Et de même, comment bien apprécier la façon d'habiter dans une maison? Et pour bien l'apprécier, il faut ça nous ait manqué pendant un moment. Donc ça va nous manquer pendant une semaine pour qu'ensuite, quand on y revient, on sache pendant toute l'année bien manger, si vous voulez, et bien habiter. La fête s'appelle Pessah, mais la vérité est c'est que la fête, elle ne devrait pas s'appeler Pessah. La fête, elle devrait s'appeler Chag HaMatzot. Parce qu'à part le premier soir, le terme Pessah n'est absolument pas justifié. Le terme de Pessah, il vient du Korban Pessah, et le Korban Pessah, c'est quelque chose qui ne concerne que le premier soir. Ça ne concerne pas du tout, même le premier jour, à part la première nuit. Le mot Pessah n'est même pas adéquat. Donc c'est une espèce d'abus de langage, mais peut-être on rattrape quelque chose dans cet abus de langage grâce justement à ce jeu de mots de Pessah. Bien qu'on comprenne que c'est presque comme si le premier soir, il faut comprendre Pessah en un seul mot et tout le reste de la semaine, enfin. Et le soir, on va parler aussi de Pessah pour donner du sens au fait que pendant toute une semaine, on va prolonger l'expérience. Si on veut, quelque sorte, ou bien on garde la mémoire de ce qu'on a fait le premier soir, si on ne mange plus de matzot, et puis si on mange des matzot, alors on renouvelle, on réactive cette mémoire pendant une semaine. Et on fait la même chose, le même travail avec Dirat Arai, c'est-à-dire ce qu'on a souka, qui est une façon d'habiter de façon très précaire, provisoire, précaire. On fait la même chose. Sauf qu'à Soukhot, on n'a pas la possibilité. Toute la semaine, on a l'obligation de vivre dans la souka, de la même manière que le premier soir. Sauf qu'on n'est pas vraiment obligé de manger. Si tu ne manges pas des choses qui sont des vrais repas, tu peux manger hors de la soukha. Miladine, on n'est pas obligé de tout manger dans la soukha. Il y a des lois sur ce qu'on doit manger dans la soukha et ce qu'on peut manger en dehors de la soukha. Le Pessah, c'est la première fête dans le nouveau calendrier. On a reçu un calendrier qui commence en Nissan. En même temps, on a reçu cette mitzvah de fixer le mois, le nouveau mois. On a reçu l'ordre de mettre de côté, les Bnei Israël ont en son temps reçu l'ordre de mettre de côté un agneau par maison étendue. Et cet agneau-là, il faudra le mettre de côté, c'est-à-dire le 10 du mois, vous allez le mettre de côté, vous allez l'attacher au montant du lit. Quand l'Égyptien vous demandera, mais qu'est-ce que fait cet agneau-là? Il dit, je me prépare à manger l'agneau en question. Ça, il faut. L'agneau en question, c'est. Les agneaux, c'est des animaux qui étaient adorés en Égypte. Il faut juste vous imaginer que si on était en Inde, et qu'on a reçu l'ordre de mettre une vache sacrée attachée au montant du lit, et que quand l'hindou vous demandera qu'est-ce que tu fais, vous lui dites que vous allez manger sa vache, vous finirez pas la phrase, vous êtes déjà tout de suite mort. Évidemment qu'ils vont vous tuer. Les Égyptiens, ils auraient bien voulu nous tuer, mais c'était pas possible. Ils ont dû accepter, ils ont dû voir qu'on allait manger, tuer, manger leur idole. Alors pendant 4 jours, l'agneau sera là, dans la maison. Et le 14, on va faire la shrita de cet animal. Et on va le manger. Cette mitzvah de faire cet agneau, de préparer, de manger, c'est donc une mitzvah qui a été donnée au Bnei Israël. On peut dire c'est la deuxième mitzvah, la première étant celle sur le calendrier, et puis ensuite, immédiatement, dans ce premier mois de Nissan, tout de suite, il vient la mitzvah de Pessah. Alors, il faut revenir un peu en arrière. Les Bnei Israël dont on parle, ce sont des gens qui sont en Égypte. Ces gens-là sont formellement encore esclaves de Paro. Mais, comme tout le monde sait, Akadosh Baruch Hu a envoyé, à ce moment-là, il a Hachem a envoyé 9 plaies, dame, tzvardéa, etc., pour frapper l'Égypte, pour montrer qu'Hachem était le maître, et pour, à chaque fois qu'il frappait l'Égypte, les Bnei Israël, eux, n'étaient pas frappés. Donc, il fallait marquer la différence. Hachem voulait qu'on marque la différence entre les Bnei Israël et les Égyptiens. Les Bnei Israël ne travaillaient plus depuis ce moment-là, depuis le début des Makot, mais ils étaient formellement encore esclaves. Pourquoi est-ce qu'ils étaient esclaves? Ça fait en vérité 210 ans que les Bnei Israël étaient en Égypte. Ils étaient en Égypte depuis que Yaakov et sa famille, en tout 70 personnes, sont descendus d'Eretz Israël en Égypte. Et s'ils sont descendus, c'est parce que un des fils de Jacob, Yosef, était vice-roi d'Égypte. Et qu'il a dit à son père, descends, viens t'installer, je vais pouvoir m'occuper de toi. Pourquoi, quel était le problème? Le problème, c'est qu'il y avait une famine. Il y avait une famine qui, quand Jacob descend en Égypte, cette famine, elle durait déjà depuis 2 ans, mais on savait qu'elle durait encore, a priori, 5 autres années. On le savait parce que Yosef, qui est donc un des fils de Jacob, le fils, le premier-né de Rachel. Yosef a eu de la part de son père Jacob un traitement de faveur. Et ça a généré, faut dire, même de la haine de la part des autres frères. Et à un moment donné, Yosef, qui n'était pas avec ses frères, à un moment donné, Jacob a dit à Yosef, je t'envoie auprès de tes frères qui sont en train de faire paître les troupeaux pour que tu me donnes des informations sur leur état et l'état des troupeaux, qui était absolument non nécessaire dans la mesure où les frères, toutes les semaines, il y avait un des frères qui revenait chez son père, Jacob, et qui lui faisait un rapport, là, tout ça. Donc là, le chef ne pouvait pas faire mieux que donner une information. Et on ne comprend pas du tout pourquoi Jacob envoie Yosef. Mais le texte donne à comprendre, je parle maintenant pour faire du Chumash, le texte donne à comprendre qu'en vérité, Jacob, ici, à ce moment-là, il est quasiment manipulé, si on peut parler comme ça, par Hachem. Parce que Hachem veut réaliser une promesse. Hachem a fait à Abraham Avinu. Au début de la trajectoire d'Abraham Avinu, il y a eu de la part d'Hachem une proposition un peu congrue, quoi, de faire une alliance. Hachem a proposé à Abraham une alliance, un brit. Et là, Hachem a dit, OK, il a dit, voilà, je vais faire une alliance avec toi. Et je donnerai la terre en question à tes descendants. Et toi, je t'informe, quoi, que tes descendants vont être esclaves dans un pays qui n'est pas le leur, et on va les faire souffrir. Mais finalement, je les sortirai de là, et ils sortiront avec un grand butin. Et Hachem avait dit à Abraham, tout ça s'appelle, c'est ce qu'on appelle Brit Ben Abtarim. Tout ça se passe, comme toujours, quand les prophètes ne reçoivent de prophétie que quand ils sont ou bien en train de rêver, ou bien en état de syncope. Donc, à part Moshe Rabbeinu, aucun prophète n'a jamais reçu de prophétie éveillée. C'est la grande différence entre la prophétie de Moshe Rabbeinu, qui est la Torah, quoi, essentiellement, et la prophétie de tous les autres prophètes. Donc ça devait durer 400 ans. Et donc, de fil en aiguille, comme Yosef a été vendu par ses frères comme esclave en Égypte, et puis il a eu une trajectoire tout à fait hors du commun, et il a été amené à interpréter un rêve de Paro, dans lequel il lui a annoncé qu'il y allait y avoir 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine, et il lui a dit comment il fallait se préparer, faire des économies, faire des réserves pour que dans les années de famine, on puisse tenir le coup. Donc, il fallait travailler pendant les 7 années d'abondance pour mettre au point. Et Yosef a été nommé pour le faire, tout ça. Et il a, fil en aiguille, en fait, il a ramassé toutes les terres d'Égypte, et tout ça est devenu propriété de Paro. Tous les nobles qui étaient là, qui avaient chacun des terres, ils ont été obligés, ils n'avaient plus à manger, étaient obligés de les vendre, de les céder pour avoir à manger à Paro, c'est-à-dire par l'intermédiaire de Yosef. Et donc, la famine, elle s'est étendue aussi en Eretz Israël. Et Yaakov, finalement, il est descendu. Il a fait ce que son fils lui a demandé de faire, parce qu'il a compris que c'était la volonté d'Hachem. Et ils sont descendus en Égypte, ils sont 70. Quand ils sont arrivés, ils étaient très bien reçus, puisque c'était la famille du vice-roi. Mais après, avec le temps, ça s'est gâté. Pour plusieurs raisons. En particulier, Yosef avait dit au Bnei Israël de rester dans une province, la province de Goshen, où les Égyptiens ne viendraient pas tellement les déranger là-bas parce que c'est un endroit de pâturage et les Égyptiens avaient beaucoup de mépris pour les bergers, etc. Et Yosef leur a dit, dites que vous êtes des bergers. Mais les Bnei Israël, il y a eu une explosion démographique. Les Bnei Israël sont devenus très nombreux. Et évidemment, ils se sont répandus dans toute l'Égypte. Et ça a commencé à mal tourner. Et les Bnei Israël ont essayé de, ils ont réfléchi, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour, que la différence entre nous et les Égyptiens ne soit pas trop visible. Or, les Bnei Israël, à ce moment-là, ils n'avaient qu'une seule mitzvah, c'est la Mila. C'était la suite de l'ordre de faire la Mila qui a été donné à Abraham Avinu. Ils ont décidé de ne plus faire la Mila. Donc, ils ont aboli, si vous voulez, la différence entre les Égyptiens et eux. Et le Midrash dit que Hachem a dit, Bnei Israël s'imagine que c'était une bonne chose d'abolir la différence, puisque eux ne marquent plus la différence, c'est les goyim eux-mêmes, les Égyptiens, qui vont marquer la différence. Ils ont beaucoup fait en sorte que les Égyptiens étaient dégoûtés par les Bnei Israël. Le Midrash dit que quand un Égyptien croisait un Juif, enfin un Hébreu, il vomissait de dégoût. Et petit à petit, il y a eu des mesures anti-juives. Finalement, on a décidé de noyer les petits garçons parce que les astrologues égyptiens ont dit que le libérateur des Bnei Israël était en train de naître. Et quand les Égyptiens ont décidé de noyer les enfants, les petits garçons, un certain juif de la tribu de Lévi était marié à une fille de Lévi. Le juif en question, il s'appelle Amram. Sa femme s'appelait Yocheved. Ils ont décidé Amram a décidé de divorcer parce qu'il a décidé qu'il n'allait pas faire quoi que ce soit qui amènerait à mettre au monde des enfants qu'on allait tuer. Et comme il était un maître, il a été suivi et les autres gens ont aussi fait comme lui. Les gens se sont séparés de leurs épouses. Le couple Amram Yocheved, il avait déjà à ce moment-là 2 enfants, un garçon et une fille. La fille en question, c'était une petite fille, elle a dit à son père, elle lui a dit, t'es pire que Paro. Là-haut, ils tuent plus seulement les garçons, toi, tu tues les garçons et les filles. Et le paradoxe, c'est que Amram a écouté sa fille, il a réépousé sa femme. Et la fille avait dit, tu te remaries avec maman, j'aurai un enfant qui sera le libérateur du clan d'Israël. Alors, pour ne rien vous cacher, Yochebed, elle avait 130 ans. C'était pas une jeune fille. Et la raison pour laquelle on fait tout un plat de Sarah et on dit rien de Yochebed alors qu'elle était bien plus âgée, c'est parce qu'il y a une règle générale qu'on considère comme miraculeuse, si vous voulez. Par exemple, une naissance qui a été annoncée. La naissance chez Sarah, elle a été annoncée un an à l'avance. Chez Yochebed, personne ne l'avait annoncée, donc on n'en parle pas. Bien sûr que c'est miraculeux, mais on n'en parle pas. Et effectivement, ils ont tué un enfant. Et ils ont eu un enfant prématuré. Et comme les flics égyptiens venaient prendre les enfants à la naissance, ils avaient des registres et ils venaient au 9e mois de grossesse, ils arrivaient. Enfin, juste après, pour pensant, voilà, on prend l'enfant et on va aller le noyer. Alors, comme l'enfant était prématuré, ils ont pu le garder pendant 3 mois. Mais quand le 9e mois est arrivé, on ne pouvait plus le garder. Et ils ont décidé qu'ils n'allaient pas le livrer aux Égyptiens, mais qu'ils allaient le remettre, sorte à la grâce d'Hachem, quoi. Ils lui ont fait un berceau imperméable. Et ils l'ont placé dans ce berceau, le bébé. Et ils ont déposé ce berceau dans les roseaux au bord du fleuve. Quand ce bébé était né, Amram avait dit à sa fille, extraordinaire ma fille, qui est une prophétesse, quand il a fallu le mettre dans les roseaux, il lui a dit, où elle est ta prophétie? Alors la petite fille, bon, je ne vous cacherai pas, elle s'appelle Myriam. La petite fille s'est tenue, elle s'est un peu cachée pour voir. Elle était sûre qu'il allait se passer quelque chose avec son frère, puisque elle avait une prophétie que il allait servir à quelque chose. Alors, il s'est passé la chose suivante. Le paro qui était avant le paro de Moshe, c'est un pharaon qui est très connu, qui était un pharaon monothéiste. C'était un idolâtre, mais il n'avait qu'un seul dieu. Il y a tout un mouvement révolutionnaire par rapport au polythéisme égyptien, mais quand le nouveau est monté sur le trône, il a fait en sorte de faire disparaître toutes les traces de ce monothéisme initial, enfin antérieur à lui. Paro lui-même, il avait une fille dont on ne connaît pas son nom autre que Bat Paro, c'est la fille de Paro. Semblablement, c'est peut-être la seule fille qu'il avait. Et cette fille-là, elle était une adepte de l'ancien Pharaon. Elle était une adepte de ce Pharaon monothéiste. Et quand elle a entendu un peu ce qui se passait, certaines choses qui se disaient chez les Juifs, je ne sais pas exactement comment elle l'a entendu, elle a décidé de se convertir, si on veut, aux valeurs des Juifs. Et comme ça se fait presque partout, pour se convertir, pour se changer, il fallait faire un geste qui représente une forme de naissance. Il est allé s'immerger dans le fleuve. Sort du fleuve, sort nouvelle. C'est un renouveau. Et donc elle est descendue au fleuve pour s'immerger. Et elle a vu, bien sûr, elle est descendue avec des dames d'honneur, etc. C'est la princesse de Paro, la fille de Paro. Et elle a vu un berceau. Elle a envoyé une servante le ramener. Elle l'a ouvert. Elle a vu un gosse qui pleurait. Et elle a dit, cet enfant, c'est un enfant des Hébreux. Alors les servantes ont dit, ton père a dit qu'il fallait le noyer. Elle ne voulait pas le noyer. Mais le grand problème, c'était que ses servantes allaient la dénoncer à Paro. Bon, il y a eu un premier ânesse, c'est qu'elles sont mortes, ces braves femmes. Et elle a pris l'enfant, elle a cherché une nourrice. Le bébé, il voulait pas manger, il voulait pas boire. Alors Myriam lui a dit, si tu veux, j'irai chercher une nourrice parmi les Hébreux. Elle est allée chercher la mère, bien sûr. Et donc, jusqu'au sevrage, cet enfant qui va s'appeler, que la princesse a nommé Moshe, il a beaucoup de noms, Moshe Rabbeinu, mais la Torah utilise que Moshe, pratiquement, qui est le nom que la princesse lui a donné. Et ce Moshe, il a donc été les premières années dans la maison de ses parents. Et puis ensuite, il était au palais, il est devenu quasiment prince héritier. Mais bon, il était protégé un peu par sa mère adoptive. Mais en même temps, il a appris tout ce qu'on pouvait apprendre quand on était destiné, a priori, à être prince héritier. Et à peu près à l'âge de 20 ans, il est sorti du palais et il a remarqué un des gardes égyptiens qui était en train de battre à mort un hébreu. Alors vous savez bien que c'était parce que ce garde égyptien, il avait violé la femme de cet hébreu et que l'hébreu lui faisait des reproches et que il voulait le faire taire et pour le faire taire, il voulait le tuer. Moshe a regardé à gauche, à droite, il a vu qu'il n'y avait pas d'Égyptien à l'horizon. Il a tué l'Égyptien avec un Shem Hashem, avec un nom divin, et il l'a enfoui dans le sable. Mais plus tard, il a vu deux Juifs qui se battaient. Et Moshe a dit à celui qui avait l'air de prendre le dessus, pourquoi tu frappes ton frère? Alors là, ils lui ont dit tous les deux, ils lui ont dit, tu es prince héritier, mais tu n'es pas responsable des esclaves. Tu n'as rien à nous dire. Peut-être tu voudrais peut-être nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Et Moshe a compris que il avait regardé s'il n'y avait pas d'Égyptien à l'horizon, il n'a pas regardé s'il n'y avait pas de Juifs. Il y avait des Juifs qu'il avait vus et qui étaient ces Juifs-là. Ils vont nous casser les pieds pendant assez longtemps. Ils s'appellent Datan et Aviram. Ils ont dénoncé Moshe à Paro. Et la tête de Moshe était mise à prix. Et Moshe a dû s'enfuir. Et donc il est parti à l'âge de 20 ans. On ne sait pas où il est allé. Alors, ce qu'on sait de Moshe, c'est qu'il a vécu jusqu'à 120 ans. Sur les 40 dernières années de sa vie, on sait ce qu'il faisait. C'est les 40 années qui vont de la sortie d'Égypte jusqu'à avoir amené les Bnei Israël à la frontière avec Eretz Israël, et où le Moshe ne pouvait plus entrer dans, ne pouvait pas entrer en Israël, on verra pourquoi. Et ça fait 40 ans. Alors, ce qu'on sait, c'est encore un peu plus, c'est que avant d'aller en Égypte, il y a un épisode qu'on connaît. À un moment donné, Moshe est arrivé à un puits. Et là-bas, à ce puits, il y avait donc des troupeaux qui se rassemblaient pour, en fait, abreuver. Mais pour ça, il fallait qu'ils soient tous là pour, toujours, il y avait des grosses pierres qui fermaient le puits pour que les gens ne soient pas abîmés, etc. Il fallait que tout le monde, tous les bergers soient là pour soulever la pierre en question. Et Moshe est intervenu parce que, évidemment, il y avait des bergères et les bergers ont molesté les bergères et même si elles étaient arrivées avant eux, c'était toujours les dernières servies par rapport à ce puits. Donc Moshe, il a chassé les bergers et il a abreuvé les troupeaux de ces belles demoiselles. Et quand ces demoiselles sont rentrées chez elles, elles sont allées à leur père, il s'appelait Yitro. Elles ont dit, Yitro a demandé pourquoi, comment ça se fait que vous êtes là plus tôt que d'habitude. Alors elles ont dit, il y a un Égyptien qui nous a aidés. Non, le père, il a dit, mais vous êtes folle. Il y a un Égyptien qui vous rend service et vous ne le ramenez pas à la maison. Va peut-être épouser l'une d'entre vous. On ne laisse pas comme ça un Égyptien dans le. Il y a un type bien qui vous a aidé, vous le laissez comme ça dans la nature. On a ramené Moshe. Alors, Yitro était un des trois conseillers de Paro. Paro avait trois grands conseillers, Bilam, Yitro et Iov. C'est Bilam qui a donné le conseil de noyer les garçons. Et Yitro, il n'a pas supporté, il ne voulait pas être complice de cet assassinat. Il est parti. Il est devenu persona non grata en Égypte, comme c'était un grand savant, un bonhomme qui connaissait plein de choses, il est devenu grand prêtre ailleurs, peu importe. Alors quand Moshe était ramené dans la maison d'Yitro, vous l'interrogez un peu. Et Moshe lui a raconté un peu sa vie, et Moshe lui racontait qu'il avait dû fuir parce qu'il avait tué un Égyptien. Alors Yitro, il a pris Moshe et il l'a mis en prison. Il était très proche de l'Égypte. On verra après aussi. Et bon, il n'a pas supporté quelqu'un puisse tuer un Égyptien. Et a priori, il aurait dû mourir dans son puits, mais il a été nourri en cachette par une des filles de Yitro. Ça a duré, paraît-il, 10 ans. Puis au bout de 10 ans, on l'a sorti du puits. Et finalement, Yitro lui a donné cette fille qu'il avait nourrie, qui s'appelle Sipora, en mariage, avec des conditions sur l'éducation des enfants que Moshe et Tzipora auraient. Conditions que Moshe Rabbeinu a acceptées. OK. Et du coup, maintenant, Moshe est devenu berger des troupeaux d'Yitro. Et un jour, il était en train de perpétrer ses troupeaux-là. Et il a vu ce fameux buisson ardent, là, un buisson qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Et il s'est approché. Et il y a une voix qui s'est adressée à lui, qui lui a dit, enlève tes chaussures, la terre sur laquelle tu te tiens, c'est une terre sainte. Alors c'est intéressant parce que c'est la seule fois que on utilise l'expression terre sainte dans la Torah. Et comme vous savez, le buisson ardent en question, il est au Sinaï. Mon cher Abinou, à cet endroit-là, il est au pied du Sinaï. Donc, Terre Sainte, c'est, n'a été utilisée que pour parler d'un endroit qui n'est pas en Eretz Israël du tout, dans le Sinaï. Et d'ailleurs, la terre n'est jamais sainte à ce sens-là, puisque quand Hachem a terminé de parler avec Moshe, la terre est redevenue une terre où n'importe qui pouvait être. C'est même la même chose au Sinaï. La montagne sur laquelle Hachem s'est dévoilé, elle était interdite tant que Hachem parlait. Et dès qu'Hachem a fini de parler, les moutons ont pu prendre le relais. Donc, ils ont pu se balader dans toute cette montagne. C'est au pied du Sinaï. Et Hachem lui a parlé, donc, et il lui a dit, je t'envoie, tu vas aller sortir les fils d'Israël d'Égypte. Et Moshe a refusé. Il a refusé, premièrement, je ne sais pas si c'est premièrement, mais en tout cas, il a refusé parce qu'il ne voulait pas marcher sur les plates-bandes de son frère Aaron. Aaron était en Égypte, c'est lui qui consolait tout le monde, c'est lui qui s'est occupé de tout le monde. Moshe ne se voyait pas arriver et prendre la tête. Ça, Hachem va lui dire par la suite que Aaron, je te dis, moi, Hachem, je te dis que Aaron, il se réjouira dans son cœur quand il te verra. Mais bon, Moshe, il était un peu sceptique là-dessus. Et la deuxième raison pour laquelle Moshe ne voulait pas sortir les Bnei Israël d'Égypte, c'est la suivante. Quand Hachem lui dit, tu vas aller dire au Bnei Israël que sortir d'Égypte, alors Moshe a dit à Hachem, et ils vont me demander qui t'envoie. Qu'est-ce que je vais leur dire? Alors Hachem dit, j'ai bien compris qu'en vérité, c'est toi qui veux connaître mon nom. Alors tu leur diras, Eke Asher Eke. Je serai qui je serai. Il faut entendre. Je serai avec vous dans les prochains exils, comme je suis avec vous dans cet exil-là. Mon cher Benoît a dit non, non. Ça, je ne vends pas ça. C'est pas possible. Mon cher Abbé, il a dit à Hachem, la promesse à Abraham, c'était 400 ans. On est à 210. Il va sortir les Bnei Israël de Mitzrayim maintenant. Mais au lieu de faire ce miracle-là, peut-être tu leur donnes la force d'aller jusqu'à 400 et comme ça, il n'y aura plus jamais d'exil. Si on va pas jusqu'à, si on sort maintenant, il y aura d'autres exils. Et ça, Moshe Rabbeinu ne le voulait pas. Mais il n'a pas eu gain de cause. Hachem n'a pas cédé. Ensuite, Moshe Rabbeinu a dit qu'il ne savait pas parler, etc. Alors Hachem lui a dit, c'est pas un argument, c'est moi qui fais parler les gens. Mais bon. Moshe Rabbeinu a été puni pour avoir résisté pendant toute une semaine. Hachem lui a dit qu'il n'entrerait pas en Eretz Israël. Et puis, sur le fait que vous ne pouvez pas parler, alors Hachem lui a dit, ton frère Aaron, qui est Lévi, puisqu'ils sont de la famille de Lévi, c'est lui qui va devenir Kohen Gadol. C'est-à-dire qu'en réalité, Moshe Rabbeinu devait être Melech, ça il l'a été, et il devait être aussi Kohen Gadol. Mais Hachem l'a puni et lui a enlevé la Kehuna Gdola, l'a donnée à Aaron. Et finalement, Hachem a dit, OK, tu peux pas parler à Paro, probablement que la bouche qui allait parler avec Hachem, si on peut parler comme ça, elle ne pouvait pas parler avec, un type comme Paro. Et donc, bon. Alors Hachem a dit, c'est Aaron qui parlera. Moi, je te parlerai à toi. Toi, tu parleras à Aaron, qui lui peut entendre ce que tu dis. Et Aaron parlera à Paro. C'est comme ça que ça s'est fait par la suite. Donc Hachem a envoyé Moshe. Et finalement, donc, le projet de faire sortir les Bnei Israël d'Égypte, Hachem dit à, après les 9 plaies, Hachem dit à Moshe, voilà, je vais encore, il y a encore une plaie, qui sera la mort des premiers-nés égyptiens. Et à ce moment-là, Paro va céder. Le problème, c'était que pour sortir les Bnei Israël d'Égypte, il fallait donc faire le tri entre les Juifs et entre les Hébreux, si vous voulez, et les Égyptiens. Mais on a bien dit précédemment que les Hébreux, ils avaient essayé de minimiser au maximum la différence entre les Égyptiens et les Hébreux, au point qu'il n'y a pas de différence, quasi. Donc Hachem a dit, pour pouvoir faire la différence, il faut que les Bnei Israël aient un mérite. Or, visiblement, les Bnei Israël n'avaient pas de mérite. Et Hachem dira aux Bnei Israël, je ne vous sors pas d'Égypte parce que vous avez prié, pleuré, souffert, etc. Je ne vous sors d'Égypte que parce que je l'ai promis à Abraham. Alors, les mérites, quel mérite? Alors, Hachem va leur donner deux mitzvot. Ces mitzvot, elles ont un point particulier qui est lié avec la chose suivante. À un moment donné, dans la discussion entre Paro et Moshe Rabbeinu, Paro a dit à Moshe, dans le thème astral des Bnei Israël, il y a la planète rouge. Et ça veut dire du sang et de la mort. Donc si vous sortez, vous allez être confronté à la mort. Il disait, au moins laissez les enfants, peut-être que les adultes, vous arriverez peut-être à vous débrouiller, mais au moins laissez les enfants. Et évidemment, Moshe Rabbeinu a dit, non, on partira avec tout le monde. Cette histoire du sang de mort là, qui est là, bien sûr, c'est présenté comme quelque chose qui est dit par les astrologues. Mais il est bien clair que même si on considère que l'astrologie n'est pas une science, mais qu'il y ait une influence planètes, des étoiles sur la Terre, c'est évident. Ne serait-ce que sous la forme des marées, qui sont dues à la Lune. Bon, à part ça, ce sont des lois de physique. Et toutes les planètes et toutes les étoiles s'influencent les unes des autres. C'est la règle de Newton. Hachem a donné deux mitzvot au Bnei Israël. Une première mitzvah qui n'est pas quelque chose de complètement nouveau, il leur a dit qu'ils devaient refaire ils devaient faire la Mila. Ils avaient arrêté de pratiquer, ils doivent faire la Mila. Et donc tout le monde a fait, en ce moment-là, il a fallu que tous les Bnei Israël refassent, enfin, fassent la Mila. Tout ça, c'est avant de sortir d'Égypte. Et la deuxième mitzvah, c'est quelque chose qui est lié à ce dont on avait parlé avant, s'appelle le Korban Pessah. C'est-à-dire qu'Hachem a dit au Bnei Israël, vous allez, comme on avait dit, vous allez mettre de côté 10 jours, à partir du 10 et le 14, vous allez faire la shrita de cet agneau, et vous allez le manger, grillé, complètement grillé, avec des matzot et avec des herbes amères. Et vous allez le manger sur le pouce quasiment, c'est-à-dire vous allez le manger sur le seuil de vos maisons, avec le bâton à la main, vous êtes prêt à partir. Vous mangez et on part. C'était pas simplement qu'ils allaient manger quelque chose, présenté comme un korban. Le mot korban, dont la racine de korban, c'est kouf rechbet, c'est-à-dire s'approcher d'eux. C'est-à-dire si la Torah nous dit qu'on est éloigné, ou bien si on se sent éloigné d'Hachem, alors on peut avoir cette démarche d'approcher quelque chose, d'approcher un korban pour Hachem. Le korban tel qu'il est présenté dans la Torah, c'est pas toujours de l'animal, bien sûr. Le premier corban qui a été inventé par Caïn, c'était du végétal, c'était du lin, des déchets de lin. Mais Hevel, lui, il a apporté les porotes, les premiers-nés de ses brebis. C'est un corban. Alors, dans un corban, de façon générale, il y a deux aspects. On commence par faire, c'est la shrita de l'animal, et on recueille le sang de la, le sang va couler, on recueille dans un gobelet le sang. Ce sang-là, dans un corban, à l'intérieur du Beth Amikdash, etc., on prend le bol en question, et avec l'index, on jette des gouttelettes de sang en direction du misbère. Et c'est cette opération-là qui apporte dans un corban en général la kapara. C'est le travail du sang. Et ensuite, on va s'occuper de la viande. Donc, on va dépecer l'animal. On va prendre la viande. Bon, là, il y a deux grandes catégories de korbanot. Il y a ce qu'on appelle korban hola, en français c'est un holocauste, c'est-à-dire qu'on va prendre la viande et on va la mettre sur le mizbéach et on va tout griller, tout brûler. Toute la viande va disparaître, elle va être entièrement consumée sur l'autel, sur le mizbéach. Et si ce n'est pas une hola, alors on prendra seulement une petite partie de la viande et un peu des entrailles qu'on va mettre sur l'autel et qu'on va brûler. Et tout le reste de la viande va être mangée. Donc la viande, dans un corban, elle est ou bien consumée ou consommée. C'est la même chose. Un, c'est pour Hachem, et de l'autre, c'est aussi pour Hachem, mais c'est une mitzvah de manger la viande des corbanotes. Alors, si le corban est un corban qu'on amène parce qu'on a fait une faute sur laquelle on doit apporter un corban, khatat, alors c'est les kohanim qui mangent la viande. Si c'est autre chose, c'est un shvamim, un autre type de corbanot, c'est les propriétaires du corban qui le mangent, qui mangent la viande. On va faire la même chose avec le corban Pessah. Manger la viande, ça pose pas de problème. Bon. Il y aura pas, on va pas, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de misbéar. Donc, il n'y a rien. Mais on a du sang quand même, et le sang, au lieu de l'asperger, enfin, il correspond à ce qu'on fera par la suite dans les korbanot, l'asperger sur le misbéach, les gouttelettes, on va badigeonner les poteaux et les linteaux des maisons. C'est une façon de montrer qu'on obéit à Hachem. Oublier qu'on a obéi à Hachem. Et Hachem a dit à minuit, je passerai dans l'Égypte et tous les premiers-nés vont mourir. Et les premiers-nés des Bnei Israël ne mourront pas. Et les gens qui sont à l'intérieur des maisons, ils sauront pourquoi ils ne meurent pas, on a montré que dans cette maison, la loi, c'était de faire ce qu'Hachem avait demandé. Et bien sûr pas pour que Hachem voie le badigeon et qu'il se trompe pas. Non, ouais, je suis pas borsé à l'intérieur de la maison. Donc, qu'est-ce que c'est que ces deux mitzvot? Ce sont deux mitzvot qui ont à voir avec le sang. Y a le sang de la Mila, et il y a le sang du Corban, c'est ça. Donc ça veut dire que le sang qui était présenté comme un sang de mort à l'horizon, là, Hachem a donné des mitzvot et on a transformé ce sang de mort en un sang de vie. Comme on dit quand on fait la Mila, on dit à l'enfant, juste après la Mila, dit c'est un verset dans Yechezkel, Bedamaïch chayi, c'est-à-dire vie par et grâce à ton sang. Alors, au sang, quelques gouttes de sang qui ont été écoulées au moment où on a fait la Mila. Ça, c'est un sang de vie, pas un sang de mort. Ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, encore une fois, on va donner du sens à la même chose. C'est-à-dire, il y a du sang versé, mais il y a du sang versé qui est un sang versé, qui est un sang de mort. Et puis il y a du sang où on verse, des fois on verse un peu de sang, et c'est en fait un sang de vie. Bien sûr que les bêtes, on a fait la shrita, sont mortes. Mais pour les Bnei Israël, c'est un sang de vie. C'est même un sang qui va leur donner kapara, donc quelque part, donner la vie d'une certaine manière à quelqu'un qui a fait des fautes tellement grandes que sa vie, elle était un peu sur le ballon. Le Corban s'appelle Pessah parce que Hachem a sauté par-dessus les maisons des Bnei Israël quand il a tué les premiers-nés égyptiens. Il a épargné les premiers-nés des Bnei Israël. Donc les Bnei Israël ont fini par sortir, mais en fait c'est pas passé exactement comme ça. C'est quand Hachem a tué tous les premiers-nés, il y a eu des clameurs terribles dans toute l'Égypte, et Paro a cherché Moshe pour lui dire de partez maintenant, partez, partez vite. Tant que vous êtes là, ça meurt chez nous et partez. Alors Moshe a dit, on va pas partir en pleine nuit comme des voleurs, on partira en plein jour. Moi, je vous rappelle, Hachem est passé en Égypte à minuit, donc on est dans la deuxième partie de la nuit. La vérité, c'est que dans cette deuxième partie de la nuit, on y voyait comme en plein jour. Et pourquoi cela? Parce que il se passe à ce moment-là quelque chose de très 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 important. Pour revenir en arrière, Avraham Avinu avait un beau-frère qui était en même temps son neveu, donc le frère de Sarah, s'appelle Lot. Et Lot était orphelin, comme Sarah, et il a été pratiquement élevé par Avraham Avinu. Il a appris hospitalité, plein de choses dans la conduite d'Abraham. Et à un moment donné, ils sont devenus tous les deux très très riches. Il y a eu des conflits entre les bergers des uns et les bergers des autres. Et ils ont dû se séparer. Abraham a dit à Lot, tu choisis. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et Lot a choisi d'aller du côté de Sdom, parce que ce côté-là était le côté le plus verdoyant, si vous voulez, très très riche. Et donc il a choisi ça, et Abraham est allé de l'autre côté. Et une des raisons pour lesquelles Lot a aussi choisi cela, c'est parce que Abraham, il avait cette fameuse auberge. Cette échelle, Aleph Shin Lamed, donc, c'est une auberge dans laquelle il recevait tout le monde. En particulier, il recevait une partie des crapules qui faisaient le commerce avec Sdom. Mais Abraham ne s'est pas installé à Sdom. Sur la route de, mais pas à Sdom. Et Lot a pensé qu'il pouvait faire mieux qu'Abraham. Et lui, il a pensé, je vais m'installer à Sdom et je vais transformer la mentalité là-bas, changer les lois de Sdom, les influencer pour qu'ils deviennent meilleurs. Bon, il a vécu assez longtemps dans cette illusion jusqu'au moment, jusqu'à la fin, en quelque sorte. La fin, c'est, vous savez que quand Avraham Avinu a fait la Mila et que après la Mila, Hachem avait voulu faire en sorte que il soit pas trop dérangé le troisième jour, qui est le jour difficile, donc Hachem avait fait en sorte que il fasse un temps tellement chaud à pas mettre un arabe dehors. Mais comme il n'y avait personne, Abraham était encore plus désespéré. Donc Hachem a changé les données et il a fait en sorte que tout à coup, devant Abraham qui était à la porte de sa tente, qui attendait de voir quelqu'un, il voit trois Arabes. Des gens qui n'ont pas du tout l'intention de passer chez lui, mais il court et il obtient que ces gens viennent manger un peu chez lui, chez lui. Ces Arabes-là sont trois anges. L'un vient pour guérir Abraham, la Mila. Le deuxième pour annoncer à Sarah qu'elle allait avoir un fils, Isaac. Et le troisième pour détruire Sdom. Et Hachem a dit, je vais dire à Abraham ce qu'on va faire. Et il lui a parlé de Sdom. Et là, vous connaissez les négociations d'Abraham pour essayer de sauver la ville de Sdom, etc. Ça n'a pas marché. Hachem a détruit finalement Sdom et les villes d'alentour. Et Lot a été sauvé par le mérite d'Abraham. Et lui, Lot, il a réussi à sauver ses deux filles qui n'étaient pas mariées. Celles qui étaient mariées sont restées là-bas avec leur mari qui n'y croyait pas à la destruction de Sodome, qui ont été détruits. Et il avait sauvé aussi sa femme, mais avec une interdiction de regarder en arrière. Ils n'avaient pas le mérite de tel qui leur permettait de voir la souffrance des autres. On vous sauve, mais tu ne peux pas voir Et Madame Locke, la curiosité était trop forte. Elle a jeté un coup d'œil et l'ambition était salée. D'accord? Elle est devenue une statisticienne. Tout le monde sait. Et donc, Locke s'est retrouvé tout seul avec ses, dans un environnement complètement détruit avec ses deux filles. Et les deux filles ont pensé qu'elles devaient assurer la pérennité de l'espèce, quoi. Ils pensaient qu'elles étaient les seules femmes au monde avec un seul mâle, c'était leur père. Donc, elles ont décidé que, ben, il fallait, pour assurer la pérennité de l'espèce, il fallait qu'elles aient un enfant avec leur père. Elles ont eu chacune un enfant avec leur père. Le père qu'elles ont saoulé parce qu'elles pensaient qu'il n'accepterait pas cet inceste. Mais bon, c'est un inceste qui, du point de vue de ce que pensaient les filles, ben, c'est l'inceste, même type d'inceste que les relations de Caïn et Abel avec les jumelles. Caïn et Abel, il y a des jumelles qui naissent. Donc, ils ont des rapports avec leur sœur. Donc, le monde il démarre, si vous voulez, sur un inceste. Donc, elles vont avoir des garçons, deux garçons. On va appeler Moab et Amon. Vont donner lieu à des peuples très importants. Et ces peuples vont eux-mêmes être plus ou moins sauvés parce qu'ils allaient produire, le peuple de Moab va produire Ruth, la grand-mère de la royauté, l'ancêtre de David, l'ancêtre du Machiav. Et le peuple d'Amon va produire Naama, qui est une des femmes de Shlomo, et qui va assurer la descendance, effectivement, qui va mener au Mashiach. Mon cher Avinu a dit à Paro, on ne partira pas. Donc, tu n'auras pas signé un acte par lequel tu libères tous les bnei Israël de la condition d'être tes esclaves. C'est ce que nous disons quand nous disons dans la Haggadah que si Hachem ne nous avait pas sortis à ce moment-là, Réanou, Banenou, nous, nos enfants, nos petits-enfants, on serait encore aujourd'hui esclave de Paro. La question est bien, entre-temps, il y a suffisamment de révolutions et de changements de dynastie, etc. Mais effectivement, si c'est pas qu'on pense qu'il y a un descendant de Paro qui pourrait avoir hérité des esclaves en question, des enfants des esclaves qui sont des esclaves. Et être le propriétaire, même si effectivement il n'a aucun pouvoir, il n'aurait pas pu réduire les Bnei Israël en esclavage, mais formellement on aurait été esclave de Paro. Et Moshe Rabbeinu voulait qu'on soit complètement libre, parce que si on est dépendant d'une quelconque manière encore de quoi que ce soit d'autre, on n'est pas vraiment serviteur d'Hachem. On est serviteur d'Hachem seulement si Hachem est le seul maître, et pas de maître autre que Hachem. Et pour nous, tout autre maître, d'une certaine manière, ça touche à l'idolâtrie. Et donc, Paro a commencé par refuser, mais ensuite, la pression était telle qu'il a cédé, il a sorti ce papier. Et donc les Bnei Israël sont sortis. Je dois dire que les Bnei Israël, on a discuté avec Paro seulement une sortie de 3 jours. On n'a jamais dit à Paro, Vous allez partir définitivement, ils n'auraient jamais été d'accord. Ils n'étaient pas d'accord pour 3 jours non plus, d'ailleurs. Tout n'est pas complètement terminé à ce sujet-là. Parce que les Bnei Israël, pour sortir, il y avait une condition absolument incontournable. Ce qui allait, ce qu'Hachem voulait, c'est un peuple. Or, les Bnei Israël en Égypte n'étaient pas un peuple. Faut regarder l'histoire. En fait, Yaakov Avinu, sur son lit de mort, il est entouré par ses 12 fils. Et Yaakov dit à ses fils, il leur dit, j'ai raté l'affaire parce que j'étais censé fabriquer un peuple, et il y en a 12. Alors c'est là-dessus que les fils de Jacob ont dit à Jacob, Shema Israël, Israël c'est le nom de leur père, Hachem Elokeinu. Hachem est notre Dieu, il est le Dieu de chacun d'entre nous, chacun des peuples. Mais Hachem est Echad. Malgré tout, il est Echad. Et tout ce qui nous relie, c'est que nous, on a Emouna, confiance, dans un Dieu qui est un, absolument un. C'est ça qui fait de nous un peuple. C'est-à-dire que le peuple juif, en vérité, n'est pas un vrai peuple au sens habituel du terme. Le problème, c'est que les Juifs en Égypte, ils étaient esclaves. Ils étaient des esclaves qui étaient à bout de souffle en permanence. Quand tu es à bout de souffle et quand tu en es à chercher ton souffle, tu t'occupes pas de ton voisin, etc., tu cherches ton souffle. Et donc, il n'y avait aucune relation entre les gens. Aucune relation. Donc, il n'y a pas de peuple. Il y a un amas d'individus. Et Hachem a demandé à Moshe de demander, s'il te plaît, au Bnei Israël, qu'il veuille bien emprunter Kleshef, qu'ils empruntent, que chacun emprunte auprès de son prochain et chacune auprès de sa prochaine, des kélim, d'or, d'argent. Okay. Et beaucoup de monde disent que c'est ça qui va produire le fameux butin qui avait été promis au moment de la sortie. Pourquoi? Parce que on va emprunter l'or et l'argent aux Égyptiens. On va pas le rendre. Bon, premièrement, c'est pas très brillant, pas terrible de penser que l'or et l'argent qu'on va utiliser pour construire le Mishkan, c'est un or et un argent qu'on a volé, quoi. C'est du vol d'emprunter et pas rendre. La question, elle est ouverte, désagréable. Et en fait, elle a été posée explicitement par les Égyptiens à Alexandre le Grand. Quand Alexandre a conquis ce qui était le monde connu de l'époque, les Égyptiens sont venus chez Alexandre, ils ont dit, nous revendiquons la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que les Juifs nous ont emprunté de l'or et de l'argent, ils ont fait les comptes. Combien ça représentait. Comme les Bnei Israël ne peuvent évidemment pas nous rembourser tout ça, alors nous saisissons la terre. Nous saisissons leur terre. Alors Alexandre a convoqué les Chachamim. On dit, qu'est-ce que vous dites de ça? Et les Chachamim ont dit, donne-nous 3 jours et on va répondre. Et ensuite, les Bnei Israël ont réfléchi entre eux. Il y a un des jeunes maîtres qui a dit la chose suivante. Il a dit, écoutez, moi j'ai une idée. Laissez-moi aller discuter avec les Égyptiens devant Alexandre. Si je gagne, tant mieux. Si je perds, vous pourrez toujours dire, mais ce petit jeune-là, il a fait comme s'il nous représentait, il représente que lui, et nous, on va, c'est nous qui allons répondre. À ce moment-là, vous direz ce que vous voulez. Les Hachamim ont été d'accord. Alors, quand il est venu, donc, au tribunal, devant Alexandre, il a dit aux Égyptiens, sur quoi est-ce que vous vous basez pour dire qu'on vous doit tout ça? Alors, ils ont dit, nous, on se base sur la Torah. Alors, il leur a dit, ah, si vous vous basez sur la Torah, alors moi aussi, je vais me baser sur la Torah. Dans la Torah, les Juifs étaient 600 000. Ils étaient esclaves pendant 400 ans, à temps et temps de l'heure. Ça fait un compte, 5 fois plus fort, 5 fois plus que ce que les Égyptiens demandaient. Et les Égyptiens sont partis. Bon, alors, pas complètement. Le compte lui-même, il est complètement faux. On n'a jamais été pendant 400 ans 600 000. 600 000, devant 600 000 hommes. C'était tout à la fin. On n'a pas été esclaves pendant 400 ans, mais pendant 90 ou moins de 90, on était en Égypte 210, mais on n'était pas esclaves tout le temps. Bon, par conséquent, la multiplication en question, elle était très fantaisiste, mais c'est pour ça que je dis, ah, vous regardez la Torah comme vous la lisez. Ok, on va la lire comme vous la lisez, et pas comme on la lit. Et donc, mais ça veut dire que, en réalité, c'est vrai que les Égyptiens nous ont fait travailler et qu'on n'a jamais été payé pour ça. Donc, normalement, ils auraient dû payer. Donc, d'une certaine manière, une façon de dire que bon, cet argent n'est pas volé, cet argent est l'argent qu'on a récupéré chez des gens qui ne voulaient pas nous payer, quoi. Il y a une deuxième chose à dire, c'est que, comme vous le savez, 7 jours après la sortie d'Égypte, les Bnei Israël se sont retrouvés devant la mer. À gauche et à droite, il y avait le désert et les bêtes sauvages. Et derrière eux, il y avait l'armée égyptienne, parce que les Égyptiens avaient changé d'avis et qu'ils avaient décidé qu'ils allaient aller récupérer les Bnei Israël. Donc ils étaient coincés. Tout le monde s'est mis à crier, à pleurer, à prier, y compris Moshe Rabbeinu. Et Hachem a dit à Moshe, dis aux Bnei Israël d'arrêter de prier, et arrête-toi aussi de prier, dis aux Bnei Israël d'avancer. Avancer, ça veut dire entrer dans la mer. La mer n'était pas fendue à ce moment-là. Entrez dans la mer, montrez que vous avez confiance en moi. C'est un problème de bitachon, d'émouna. Le problème d'émouna sera le grand problème. L'agneau pascal qu'ils ont fait, c'est pas une fête parce qu'ils étaient libres. Au moment où ils mangent l'agneau pascal, ils sont pas encore sortis. Ils ont la promesse qu'ils vont sortir, mais ils sont pas encore sortis. Personne ne sait, personne ne peut même penser qu'on puisse sortir un peuple, même si en réalité, c'est une toute petite fraction du peuple, c'est 20%. 80% ne voulaient pas sortir. Ils vont sortir. C'est quand même 600 000 hommes, plus le monde des femmes, le monde des enfants, le monde des vieillards. A aucune idée comment c'est possible. Et d'ailleurs, on ne nous le dit jamais. Dans la Haggadah, on raconte des tas de choses sur ce qu'il y avait avant la sortie. Et après la sortie, il n'y a pas de zoom sur le jour de la sortie. sais pas du tout comment ça s'est fait. C'est un problème d'Emouna. Donc les Bnei Israël sont entrés dans la mer. Et quand ils ont eu de l'eau jusqu'au nez, la mer s'est fendue. Et mon cher Rabbeinu, sur l'ordre d'Hachem, a fendu la mer. Et les Égyptiens ont suivi. Les Bnei Israël ont passé la mer à pied sec, donc. Ils sont remontés de l'autre côté. Puis, M. Rabbeinu a fait retomber les eaux. Et les eaux ont noyé toute la cavalerie égyptienne. Mais les Bnei Israël ont dit, bon, c'est rien passé. Nous, on est sortis de ce côté, les Égyptiens sont sûrement sortis de l'autre côté. Et Hachem a dû faire en sorte que la mer recrache les cadavres des Égyptiens. Pour que les Bnei Israël aient confiance en Hachem et Vayaminu Hachem ou Moshe Avdo. Seulement à ce moment-là. Et là, il se passe quelque chose de nouveau. C'est que les Égyptiens, quand ils sont partis poursuivre les Bnei Israël, l'habitude, c'était que les gens partaient avec toute leur richesse, en quelque sorte. Comme on raconte sur le téméraire au camp du drap d'or, etc. Vous savez, là, c'est pas pris ça. Et donc, les Bnei Israël ont ramasser les trésors à ce moment-là. Beaucoup plus de trésors, beaucoup plus de valeur que ce qu'ils avaient emprunté chez les Égyptiens. Alors, j'ai encore une chose à dire sur cet emprunt chez les Égyptiens. Le Gaon de Vilna dit que jamais dans la Torah, jamais, le mot réa, qui est utilisé ici dans le passage qui dit que chacun doit emprunter chez son prochain, les femmes sa prochaine, le mot réa ne veut jamais dire égyptien. Il n'y aura jamais un goy. Le réa, c'est toujours un juif. Et donc, l'idée de emprunter, c'était pas emprunté chez les goyim, c'est emprunté aux juifs. Alors c'est pourquoi? Quel est l'intérêt? Premièrement, ça veut déjà dire qu'il n'y a pas de butin. Enfin, le butin, c'est peut-être ce qu'ils vont ramasser à la mer, mais là, il n'y a pas de butin, si on lit comme ça. Et en vérité, ce qu'Hachem m'a demandé là, c'est pour répondre à ce dont on a parlé il y a quelques minutes. Les Bnei Israël en Égypte, ils n'avaient pas de relation les uns avec les autres. Donc Hachem a dit, il faut qu'il y ait des relations un peu, même artificielles, entre les gens, pour que ça soit un embryon de peuple. Sinon, on a des amas d'individus. Donc, quand tu empruntes et tu prêtes, etc., ça crée des relations. Les artificielles, au départ, ça crée. Alors, le problème, c'est, OK, c'est bon, mais alors, d'où vient l'or et l'argent des Égyptiens? Alors, il faut dire que quand les Égyptiens ont vu que la société juive, en l'occurrence, était une société agréable parce que on emprunte, on donne, et donc ça crée des relations. Ils ont dit, ben nous, on veut en être aussi. Et ils ont aussi prêté, emprunté, etc. Et eux, ils avaient plus de richesses et on a pris. Donc c'est ça l'or et l'argent. Là déjà, c'est un petit peu différent parce que c'est eux qui ont voulu venir, en quelque sorte. Mais bon, ça reste, il faut donner quand même les autres réponses sur le problème du vol, quoi. Donc c'est important Parce que comme ça, les Bnei Israël qui sortent ne sont toujours pas un peuple, mais ils sont pas rien du tout par rapport au peuple. Et les Bnei Israël vont petit à petit, c'est très, très rapide puisque tout va se jouer dans les 50 premiers jours. Les Bnei Israël, quand ils sortent d'Égypte, ils campent. Partout où ils campent, c'est marqué Vayachanu, ils ont campé. Et à la fin, juste avant qu'ils arrivent au pied du Sinaï, c'est marqué Vayichan Israël. Israël a campé. C'est là qu'on est devenu un peuple. Maintenant, on parle du clan Israël au singulier. Donc, Israël est devenu à ce moment-là un peuple. Devenu un peuple parce que la Torah ne pouvait pas être donnée à des individus. La Torah a été donnée à un peuple. Bon, je voudrais juste faire une remarque. J'ai bien vu qu'on a dépassé l'heure, mais bon. À Pourim, si on fait le bilan, à Pourim, on a tué Aman et ses fils, Amalek. Les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont été confrontés à Amalek qui les a attaqués et les Bnei Israël ont gagné la guerre. C'était Amalek. Quand les Bnei Israël sont sortis de Mitzrayim, ils sont allés au Sinaï pour recevoir la Torah. Quand ils ont pu sortir, à la fin de l'épisode dans Megillat Esther, on dit Kimou, le Kiblou, c'est-à-dire les Juifs ont accompli ce qu'ils avaient déjà accepté au Sinaï sous la contrainte. Cette fois-ci, ils l'ont accepté sans contrainte. Donc, il y a une Kabbalat HaTorah à ce moment-là. De la même manière que la Kabbalat HaTorah quand on sort d'Égypte. Il y a une troisième chose qui est absolument fondamentale. On peut un peu dire de la manière suivante. Les premières louchot, les premières tables, le support et l'écriture, tout ça est d'origine divine. Dans les premières tables, c'est Hachem qui a produit le support. Un support qui, finalement, très, très rapidement, n'est plus du tout un support puisque c'est écrit de part en part. Il n'y a que de l'écriture. Il n'y a pas de support. Il n'y a plus de support. Les deuxièmes louchot, c'est Moshe Rabbeinu qui a apporté les tablettes. Bon, les tables, ce n'est pas ce truc-là qu'on fait. C'est deux tablettes de 60 cm sur 60 cm, cinq paroles sur l'une, cinq sur l'autre. Ce sera deux tablettes. Et ces deuxièmes tablettes, le support est d'origine humaine, c'est Moshe qui l'amène, et l'écriture est divine. Donc, entièrement divin, moitié-moitié, et en fait, à Pourim, il y a autre chose qui va permettre la Kabbalat HaTorah, qui va permettre la vie du peuple, qui va être la base du peuple. Qu'est-ce que c'est? C'est la première parole qu'Esther a dite quand elle a. Mordechai lui a dit, tu dois intercéder pour obtenir l'annulation des décrets de Haman auprès d'Ahasvéroch. Et quand finalement elle a décidé d'y aller, elle a dit à Mordechai, et à ce moment-là, c'est Esther qui donne les ordres, c'est plus Mordechai. C'est Esther qui donne les ordres. Elle dit à Mordechai, va, Knos Polayoudi, rassemble tous les Juifs. Bien entendu, il a rassemblé essentiellement les Juifs de Shushan, pas le temps de ramasser tous les bouts de l'Empire perse. Mais rassemble. Pourquoi? Parce que pour que Esther puisse parler au nom de son peuple, il faut qu'il y ait quelque chose de concret. Or, ce que disait Aman, c'est les Juifs, on peut les tuer, ils sont tous dispersés, ils n'ont pas de relation les uns avec les autres. elle dit knos, rassemble. Donc, quelque part, il y a une espèce de noyau qui représente le clan d'Israël. Et Esther, elle peut parler, comme elle dit, ce que je demande, c'est ma vie et la vie de mon peuple. Et voilà, c'est concret. Le peuple, il est là, il est rassemblé. Ces gens-là, ils ont fait quelque chose ensemble sur l'ordre d'Esther. Ils ont jeûné 3 jours. 3 jours dans lesquels il y avait Pessah. Elle a été mevatel Pessah. Ils n'ont pas mangé de matzah. Donc, si vous voulez, c'est comme si ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte s'est repassé au moment tout de suite après Pourim. Les Bnei Israël qui, à ce moment-là, ont reçu l'ordre, la permission de sortir, de retourner en Eretz Israël et de construire le deuxième Beth Amikdash. Mais à ce moment-là, ils sont dirigés par Ezra. Ezra, c'est un super grand bonhomme. La Gemara, elle dit que si la Torah n'avait pas été donnée par Moshe, elle aurait été donnée par Ezra. Et Ezra, il a enseigné la Torah aux Bnei Israël qui allaient en Eretz Israël, mais il a dû la leur enseigner en araméen. Parce qu'au bout de 70 ans, ils ne savaient plus rien, les Bnei Israël. Ça ressemble beaucoup aux 70 ans du régime communiste en Russie. La plupart des gens avaient déjà tout oublié en 70 ans. Toujours des individus, bien sûr, il y avait Ezra et d'autres qui n'avaient pas tout oublié. Mais globalement, les gens avaient oublié. Ils avaient oublié la langue, donc il fallait leur enseigner. Ensuite, il y avait énormément d'assimilation, de mariage mixte, etc. Il a fallu trier tout ça. Et puis, on a changé d'écriture aussi. L'écriture qu'on a aujourd'hui, c'est une écriture très ronde. S'appelle Ktav Achouri. Peut-être certains disent que ça a été emprunté à l'Achourim. L'hébreu du départ, c'est un hébreu des langues très pointues, ça fait mal aux yeux, quoi, par l'écriture de l'hébreu primitif. Donc, qui est très important, c'est que les choses dépendent maintenant du peuple. C'est le peuple qui va produire tout ça. Si vous voulez, c'est entièrement divin, moitié-moitié, et entièrement humain. Humain, évidemment, inspiré par Hachem, mais c'est les humains qui se prennent en charge. C'est l'explosion de la Torah chez Balpé qui commence à ce moment-là. Voilà, on s'arrête. Je suis désolé, j'ai passé les bornes. Pas très clair, on n'y est pas là.